CA et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A 2B3 Montréal, Québec. Merci.
CKUT Henry Grimes. And stay tuned for more of the most aesthetic things, feelings in the world.
Si vous avez présenté une demande d'indemnisation pour des sévices subis dans un pensionnat indien, sachez que les dossiers de votre demande sont protégés. Ils seront détruits en septembre 2027, à moins que vous ne choisissiez de les conserver ou de les partager. Pour en savoir davantage, composez le numéro sans frais 1-877-635-2648 ou consultez le site mesdocumentsmonchoix.ca.
There is this thing going on.
What
we realize
our consciousness is affected.
There is this thing going on.
What is called
the news brought to you live.
Bonjour et bienvenue sur En Profondeur sur 90.3 FM, CKUT.ca. Aujourd'hui, nous allons entendre Des oreilles loin du front, l'émission sur fréquence Paris pluriel intitulée Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, avec l'historienne Bibia Pavard. Ça se lit comme suit. Ce mercredi, nous avons parlé avec l'historienne Bibia Pavard de la façon dont sont nés les féminismes en France et de leurs évolutions. Bibia Pavard a coécrit avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel le livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Une histoire des féministes de 1789 à nos jours, publiée aux éditions La Découverte. Bibia Pavard était aussi passée aux oreilles loin du front, sur le plateau, pour parler de l'histoire du planning familial et de celle des lois Veil. Alors, vous écoutez CKUT 90.3 FM, mais nous diffusons une émission des oreilles loin du front, datée du jeudi 5 novembre 2020. À propos du livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». De Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et vous écoutez les oreilles loin du front. Alors ce soir, dans le dossier du jour, nous vous proposons un entretien avec l'historienne Bibia Pavard que nous avons rencontrée à l'occasion de la sortie du livre collectif « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féministes de 1789 à nos jours ». C'est un livre publié aux éditions La Découverte et coécrit avec les historiennes Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel. Il s'agit de comprendre comment les féminismes ont émergé en France.
Bonjour Bibia, merci déjà de venir participer à l'émission malgré le confinement.
Bonjour.
Je reçois ce soir pour le livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Donc c'est un livre coécrit avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel. Donc le sous-titre c'est « Une histoire des féministes de 1789 à nos jours » et c'est publié aux éditions La Découverte. Alors peut-être pour commencer, ça nous intéresserait de savoir un peu la genèse de cet ouvrage qui est un ouvrage collectif, pour savoir comment vous avez eu l'idée de traiter de ce sujet ensemble.
Oui, alors cet ouvrage, en fait, il est le résultat d'une longue collaboration entre nous trois maintenant. On s'est rencontrés il y a plusieurs années. On a d'abord collaboré pour un autre livre qui s'intitulait « Les lois Veil », qui a été publié chez Armand Collin en 2013, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on a voulu continuer cette collaboration en faisant un séminaire de socio-histoire des féminismes à l'EHESS, hein, dans le master genre politique et sexualité, ce qui a été une expérience importante pour nous parce que ça nous a permis de réfléchir à la pédagogie comment enseigner ces sujets à des historiennes, des historiens, mais aussi des sociologues, des politistes et puis d'autres disciplines. Ça nous a permis d'affiner nos réflexions, d'échanger au sujet de la manière d'écrire cette histoire et puis aussi de recevoir des retours de ces étudiantes et ces étudiants, des questionnements, des critiques parfois, qui nous ont amenés aussi à vouloir intégrer un certain nombre de questionnements contemporains pour essayer de produire un livre qui, à notre sens, n'existait pas, c'est-à-dire un livre à la fois de synthèse des recherches qui existent désormais et qui sont très dynamiques depuis les années 80 sur les féminismes, mais aussi un ouvrage qui prennent en compte nos propres travaux, notre propre recherche, nos propres réflexions, donc qui soit à la fois de la synthèse et de la recherche. Et c'est ça qui nous a mené donc à cet ouvrage qu'on a vraiment écrit toutes les trois en totale collaboration.
Et alors, une chose importante dans le sous-titre, c'est féminisme au pluriel. Et pourquoi avoir choisi ce pluriel ?
Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, je pense, pour tous les travaux qui actuellement travaillent sur les féminismes, parce que l'idée, c'est de vraiment montrer la diversité des revendications, des stratégies, des idéologies que l'on peut voir s'exprimer dans un courant de pensée, des mobilisations collectives, parfois des prises de position individuelles qui sont très diverses. Du coup, ce pluriel, il vise vraiment à rendre compte de cette pluralité et à toujours exprimer à toutes les périodes, on commence en 1789 jusqu'à nos jours, ces divergences parfois, ces débats, ces différences qui font en fait, à notre sens, la richesse des mouvements féministes.
Et pourquoi ne pas avoir appelé ce bouquin « Les luttes des femmes » ? Pourquoi le choix de féminisme ? Parce que au début de l'ouvrage, vous expliquiez l'origine de ce mot, et ce mot, ça date quand même que de 1872, ouais. Alors que le livre commence avec la Révolution française.
Alors c'est une très bonne question parce que on pourrait effectivement, on a utilisé de manière anachronique le terme féminisme, comme tu l'as bien rappelé, c'est un terme qui a été forgé en plus par un anti-féministe en 1872 qui visait à critiquer la prise de position de femmes mais surtout d'hommes en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est ensuite qu'il est devenu donc un terme qui a été réapproprié par les militantes de cette cause. Alors, notre idée, c'était de travailler vraiment sur les luttes de femmes, effectivement, mais aussi d'hommes, qui prenaient pour question centrale la question de l'égalité, la question de la liberté, de la lutte contre l'oppression sociale qui touchait les femmes dans toute leur diversité. Et donc, si on prenait lutte de femmes dans un sens encore plus large, on aurait pu prendre en compte, par exemple, les luttes d'ouvrières pour leurs conditions de travail ou les luttes de salariés dans différents contextes, ce qui parfois se recoupe avec des revendications d'égalité salariale, par exemple, ou tout simplement d'articulation entre ce qui se passe dans le monde du travail et dans la vie privée. Mais notre idée, c'était vraiment de se concentrer sur ce qu'on peut définir comme un périmètre des mobilisations féministes, qui n'est pas simple, c'est quelque chose qui vraiment intéresse les chercheuses et les chercheurs sur ce sujet, les frontières de ces mobilisations, mais c'est aussi un sujet tout à fait passionnant qu'on a voulu prendre à bras-le-corps en s'intéressant spécifiquement au mouvement féministe.
Donc vous parlez d'un mouvement, des mouvements d'ailleurs, des féministes et des mouvements pluriels, et vous ne vous êtes pas focalisé sur ce qui se passe à Paris, en fait. C'est toute la France et c'est aussi les départements d'outre-mer et même les colonies.
Exactement. Alors, du coup, là, c'est vraiment une volonté de prendre en compte les évolutions récentes de ces recherches sur les féminismes. C'est d'une part essayer de sortir d'une vision qui soit trop centrée sur, sur Paris. Alors là, on a pu bénéficier notamment de toute la compétence de Michel Zancarini-Fournel qui avait écrit un gros ouvrage, Les luttes et les rêves, donc une histoire populaire de la France depuis le XVIIe siècle et qui avait elle, recherché des sources un peu partout en France. On a eu aussi de nombreuses thèses, par exemple, je pense, sur les années 1970, qui ont montré la force des mobilisations en dehors de Paris, donc à Rennes, par exemple, Marseille, Toulouse, que sais-je, Lyon, Grenoble, Lille, et qui ont permis un petit peu de faire bouger le récit habituel, de montrer qu'en fait encore plus la diversité des féminismes. Donc voilà, prendre en compte ces nouvelles recherches, et puis aussi prendre en compte les recherches qui aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, essayent de comprendre la place des féminismes dans le projet colonial. La place des féministes colonialistes, la place des féministes anticolonialistes, la place des femmes colonisées et de la lutte pour leurs droits en tant que femmes et colonisées. Donc vraiment, c'est tout cela qu'on a voulu prendre en écharpe. Donc c'est évidemment centré sur la France comme espace géographique, mais compris de façon très large.
Et alors là, puisque tu parles de point de vue décolonisé, d'essayer de faire différents types de recherches, il y a un mot dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours, c'est l'intersectionnalité, et votre ouvrage, c'est exactement ça.
Alors oui, c'est vrai que c'est assez gênant en fait de voir ce terme d'intersectionnalité pris comme ça à partie dans le débat public. Surtout que nous, on a voulu avoir une approche qui était très scientifique, très nuancée. Donc partir de ce terme d'intersectionnalité forgé par Kimberly Crenshaw à la fin des années 80, au début des années 90, mais qui prenait en compte en fait des revendications qui s'étaient exprimées dans les mobilisations féministes, en particulier chez les afro-féministes aux États-Unis. Et donc l'idée, c'était d'essayer de comprendre les formes d'articulation des dominations, donc en particulier autour de la question de la classe sociale, mais aussi de la race et du genre. Et du coup, évidemment, prendre le terme de race dans un sens sociologique, hein, c'est-à-dire comme un système d'oppression qui produit des différences et des hiérarchies. Et donc, essayer de voir comment certaines catégories de la population se retrouvent écartées des mobilisations d'un côté pour les droits des Noirs, de l'autre côté pour les droits des femmes. Donc, c'est en particulier le cas des femmes noires des classes populaires aux États-Unis, hein, qui parfois se retrouvaient dans un vide de mobilisation. Donc, il y a cette question-là. Et puis, comment voir concrètement comment s'articulent ces dominations ? Alors, comment s'articulent ces dominations telles qu'elles sont exprimées dans les revendications des féministes, mais aussi montrer que ça peut créer des tensions, des conflits à l'intérieur des mouvements féministes, hein, d'où l'idée de ce titre « Ne nous libérez pas, on s'en charge », qui peut à la fois qualifier effectivement l'ensemble des mobilisations féministes qui revendiquent un « nous les femmes » et la nécessité pour les femmes de s'organiser en tant que groupe, certaines diraient en tant que classe, pour pouvoir revendiquer leurs droits, mais aussi à l'intérieur de ce groupe, les inégalités qui donnent lieu à des sous-organisations, des sous-groupes qui veulent revendiquer leur propre manière d'être féministe. Je pense par exemple aux afro-féministes ou aux féministes issues de l'immigration, par exemple dans les années 1970. Je pense aux femmes des classes populaires qui parfois ne se sentent pas représentées par les femmes des classes supérieures. Bon, voilà, toute cette diversité. Donc nous, notre idée, ça a été vraiment de montrer tout cela, de se servir de l'intersectionnalité comme un outil théorique, mais aussi comme des lunettes, en fait, qui permettaient de relire l'histoire. Et c'est vrai que ce qui a été fascinant, c'est qu'on s'est rendu compte que d'une articulation en fait très claire dès la Révolution française entre la question des droits des femmes et des droits des esclaves, et en particulier donc l'utilisation de cette métaphore de l'esclavage pour qualifier la situation des femmes, mais en même temps l'implication aussi de ces femmes mobilisées pour leurs droits dans d'autres luttes, et précisément celles qui visaient à mettre fin à l'esclavage. Alors, on peut penser par exemple à Olympe de Gouges, hein, qui fait bien l'articulation entre les deux au moment de la Révolution française. Donc c'était tout ça, c'est quelque chose, c'est une approche complexe qu'on ne peut pas résumer à ce qu'en dit le débat public aujourd'hui, et qui est parfois un chiffon rouge qu'on agite pour dénoncer ce qui est perçu comme des dérives communautaires, et de l'autre côté au contraire une revendication politique d'un positionnement qui prenne en compte justement c'est un féminisme pluriel. Donc voilà, nous on se situe peut-être sur un autre plan, mais qu'il est difficile aujourd'hui de comprendre vu le caractère totalement tout à fait volcanique, hein, de ces débats dans la société aujourd'hui.
Et puis l'ouvrage met à mal aussi l'idée de première vague, deuxième vague, troisième vague de féminisme, ou même aujourd'hui quatrième vague. Et en fait, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus complexe et que tout est imbriqué, tout est relié, et que voilà, c'est pas juste un pas en avant, trois pas en arrière.
Alors ça aussi, ça a été une importante réflexion de notre côté. Bon, c'est assez classique pour des historiennes de s'interroger sur les chronologies, sur les temporalités. Mais on a voulu donc se saisir de cette métaphore qui est couramment utilisée dans les ouvrages académiques, mais aussi par les militantes elles-mêmes. Ça vient d'abord des militantes, qui vise à se situer dans une histoire longue, et donc de faire d'une première vague celle du 19e siècle centrée sur la question des droits, hein, grosso modo pour résumer. La deuxième vague serait celle qui aurait émergé plutôt à la fin des années 1960 et début des années 70, et qui porte son regard plutôt sur les questions de sexualité, de corps, de libération. Et puis ensuite, il y aurait une troisième vague dans les années 90, voire une quatrième, qui est difficile à délimiter. Alors déjà, nous, on était un petit peu sceptique sur la multiplication des vagues ces dernières années, puisque certaines même parlent de cinquième vague, enfin, voilà. Mais aussi parce que, en fait, cette métaphore, elle a des avantages, hein. Elle montre à la fois des continuités et des ruptures, mais finalement, elle ne met pas assez l'accent sur ce qui perdure depuis le 19e siècle, sur par exemple la récurrence de certaines revendications qui étaient déjà là au 19e siècle, par exemple sur les questions de sexualité. Lorsqu'on s'intéresse aux féministes des années 1930-1948, les Saint-Simoniennes, ce qu'a fait avec brio Florence Rochefort, elle a bien montré que la question de la sexualité était importante à ce moment-là. Et donc on n'est pas sur un moment où c'est simplement les droits qui sont revendiqués. Et puis aussi, donc, on a voulu montrer qu'il y a certaines militantes qui sont engagées, par exemple, depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui, et qui viennent défier un petit peu cette idée de vague, hein, justement par la longévité de leur engagement. Et puis par ailleurs, ce qui nous a semblé gênant aussi, c'est que le discours sur les vagues aujourd'hui est plus un discours identitaire, c'est-à-dire c'est plutôt une revendication politique qu'un discours sur les temporalités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se dire de la troisième vague, c'est se dire appartenir à une certaine catégorie de féminisme qui veut se distinguer des féministes actives depuis les années 70. Donc c'est aussi tout un jeu politique autour de ces dénominations. Donc on a voulu pour ce livre essayer de penser évidemment des chronologies. Le plan est chronologique, mais ne pas utiliser cette métaphore qui nous semblait plus figer les choses que nous aider à réfléchir.
Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front. Ce soir, on vous diffuse un entretien réalisé avec l'historienne Bibia Pavard Autour du livre qu'elle a co-écrit « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féministes de 1789 à nos jours. On parlait de la genèse de cet ouvrage. Et maintenant, on va parler de l'histoire des féminismes, justement, à partir de la Révolution française. Et on va essayer d'aller au-delà de la figure d'Olympe de Gouges.
Évidemment, alors ce qu'on a voulu montrer, c'est justement déjà la diversité des luttes que l'on a qualifié de féministe pour la Révolution française, même si le terme n'existait pas. Donc à la fois qui peut prendre la forme d'une élite bourgeoise qui va revendiquer l'égalité entre les femmes et les hommes par des textes, en particulier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'âme de Gouges. Mais voilà, on traite aussi par exemple de Condorcet ou d'autres figures qui voilà, réfléchissent théoriquement à la liberté, à l'égalité dans le contexte qui est celui de la Révolution. Mais on a aussi toutes les femmes du peuple qui s'expriment, alors soit dans les cahiers de doléances, soit dans des manifestations de rue. On a par exemple donné une place importante à cette manifestation de femmes qui sera à Versailles pour faire revenir le roi et la reine en octobre de 1789. Donc toute une série en fait de mobilisations pour redonner une place aux femmes dans ce moment révolutionnaire et montrer à quel point cette brèche révolutionnaire est aussi un moment de réflexion sur la place des femmes dans l'espace public, sur la question des inégalités qui se jouent effectivement entre différents groupes sociaux, mais aussi entre les femmes et les hommes.
Et puis, après 1789, il y a la révolution de 1848. On oublie souvent cette révolution et il y a eu des revendications féministes très importantes à ce moment-là.
Oui, alors il y en a déjà eu en 1830, il y en a encore en 1848, c'est-à-dire que chaque moment révolutionnaire constitue des espaces de possibles pour les femmes qui s'engagent à la fois dans des revendications sociales et politiques. Et donc des revendications qui vont être aussi articulées à celles du droit des femmes. Alors il y a plusieurs questions qui se posent, la question de l'éducation, la question accès à l'éducation qui est encore très compliqué pour les femmes à l'époque, la question des droits politiques. Alors c'est une question qui ne fait pas l'unanimité, mais savoir si les femmes doivent accéder au suffrage universel, puisqu'on est en plein dans les débats sur le suffrage universel en 1848. Il y a la question aussi des droits des femmes mariées avec le code civil qui les rend vraiment totalement minoritaires. Donc toutes ces questions sont prises en charge par des groupes, des clubs de femmes comme à la Révolution aussi, hein, j'ai oublié d'évoquer ce point des clubs de femmes à la Révolution, donc qui s'organisent entre elles pour proposer un certain nombre d'améliorations de la vie des femmes. Et c'est une énorme déception de voir que finalement ces révolutions ne prennent pas du tout en compte cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes comme une question prioritaire. Et donc du coup, c'est assez caractéristique de voir à la fois cet engouement et cette énorme déception, ces rendez-vous manqués répétés à chaque révolution au XIXe siècle.
Parce qu'il y a aussi une certaine montée d'un antiféminisme à cette époque-là.
Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un contre-mouvement qui s'exprime dans une idée qui est nette, hein, c'est que la différence de nature entre les femmes et les hommes justifie les inégalités, et en particulier le fait que les femmes doivent donc s'occuper de la sphère privée et ont un rôle important dans la sphère privée dans leur projet révolutionnaire, mais ne peuvent en aucun cas accéder à la sphère publique, en particulier politique, parce que ça déstabiliserait l'ordre social. Donc on a toute une série d'hommes politiques révolutionnaires qui argumentent pour justement exclure les femmes de cet espace politique, sur des arguments qui sont des arguments de nature, leur faiblesse biologique, leur méconnaissance des questions politiques, et donc qui perçoivent l'implication des femmes comme un danger pour la stabilité de la nation. Et donc, on a vraiment des tentatives de féministes qui essaient de déstabiliser cette vision des choses. Par exemple, pendant la Révolution, des femmes qui revendiquent la nécessité pour les femmes de porter les armes et de vraiment devenir citoyennes à part entière de cette façon, en participant à l'effort guerrier de la République menacée. Mais voilà, les résistances sont grandes et vont se traduire dans des lois qui, tout simplement, empêchent les femmes de se réunir en club, qui empêchent les femmes de se réunir dans la rue, à plus de 5 personnes. Donc, toute une série de... Et qui, évidemment, conçoivent le suffrage universel, par exemple, en 1848, comme un suffrage universel masculin. Donc, tout ça montre l'importance des résistances. Et explique aussi l'importance des mobilisations, parce que en fait, ces mobilisations répondent à ces résistances qui sont très fortes. Et puis, bon, évidemment, dans le socialisme qui se développe à partir des années 1820-1830, on a des formes de résistance comme celle de Proudhon, qui en France a une très grande influence sur le mouvement socialiste et anarchiste en train de se forger, et qui lui est totalement opposé à cette idée d'égalité entre les femmes et les hommes, et qui est même très misogyne dans tous ses discours, et donc qui va beaucoup marquer aussi cette misogynie du socialisme et du syndicalisme en France.
Ouais, dans votre livre d'ailleurs, il y a beaucoup d'illustrations, il y a des lettres, il y a des textes, parce que ce n'est pas que juste l'histoire racontée, c'est aussi une histoire avec des anecdotes, des visuels, c'est très riche. Et pour continuer, il y a une autre figure qu'on connaît tous du féminisme en lutte, c'est Louise Michel. Alors là, on est à l'époque de la Commune, mais c'est quand même une figure très importante et ça cache un peu tout ce qui s'est passé aussi à cette époque-là du côté des luttes des femmes.
Alors effectivement, la figure de Louise Michel, elle est intéressante parce que elle est à la fois très impliquée dans les luttes sociales et elle est très impliquée pendant la Commune, et c'est quelqu'un qui est reconnu comme une figure de premier plan à ce moment-là, évidemment, qui fait d'ailleurs les frais d'une misogynie en plus, d'une opposition politique très marquée. Elle est intéressante parce que elle se distingue d'une certaine manière d'autres féministes qui sont plus bourgeoises et qui sont en train de aussi faire renaître des associations, des groupes pour revendiquer l'égalité des droits. Et donc, par exemple, Louise Michel, la question des droits politiques ne l'intéresse pas du tout, parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est les luttes sociales. Donc, c'est son côté anarchiste, évidemment. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec cette figure, c'est qu'elle articule toutes ces réflexions sur les inégalités de classe sociale, sur les inégalités entre les femmes et les hommes, et sur aussi la situation dans les colonies, parce qu'elle a son séjour aussi dans les bagnes fait qu'elle a aussi une sensibilité à ce qui se passe dans cette France des îles. Donc voilà, elle est très elle articule toutes ces luttes, mais c'est ce qui est intéressant, c'est que elle fait pas partie de ce renouveau des mobilisations féministes bourgeois que l'on voit parallèlement. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement ces années de Commune et début de la Troisième République, ce sont des années où justement il y a vraiment une diversité de groupes, d'organisations, de journaux féministes qui s'expriment et qui font qu'on est dans un moment de forte mobilisation autour de ces questions.
Alors là, tu parlais de Louise Michel qui s'intéressait à la situation dans les colonies. Et il y a une autre figure féministe, Hubertine Auclair, qui elle a été en Algérie et qui a une position différente, ou en tout cas un regard sur la situation des femmes là-bas, complètement différente.
Voilà, alors Hubertine Auclair, c'est une figure centrale pour le renouveau justement de ces mobilisations féministes sous la Troisième République, parce qu'elle va être assez pionnière dans sa revendication du droit de vote, alors que les autres groupes féministes sont plutôt sur des revendications d'égalité des droits civils, elle va argumenter dès le départ la nécessité de s'intéresser aux droits civiques qui pour elle sont la base de la transformation de tous les autres droits, puisque si les femmes ne peuvent pas voter, si elles ne peuvent pas être élues, elles ne pourront pas changer les lois. Donc elle a une position très radicale là-dessus, hein, et elle est assez isolée au départ, mais finalement voilà, la question du suffrage va prendre de plus en plus d'importance dans les années 1890. Et donc voilà, c'est un peu une suffragette à la française, c'est-à-dire qu'elle a des actions qui sont quand même assez radicales. Par exemple, elle refuse de payer ses impôts, elle va se présenter à certaines élections, donc voilà, elle n'hésite pas à manier l'illégalité. Bon, et ce qui est intéressant avec cette figure, c'est qu'effectivement, elle va vivre en Algérie, suivre son mari là-bas, et que ça va être l'occasion pour elle d'avoir aussi un discours sur les femmes algériennes. Un discours qui est à la fois empreint d'un élan colonialiste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas critique vis-à-vis de l'idée même coloniale, au contraire, elle croit en cette idée de la civilisation française qui doit essaimer dans le monde, hein, cette patrie des droits de l'homme qui doit donc diffuser ses valeurs dans le monde, hein, elle est sur une ligne qui est un peu celle de Jules Ferry, on pourrait dire, donc voilà, elle est dans cet élan-là. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a voulu montrer, contrairement à une vision un peu trop simpliste, c'est que elle a évidemment cette culture coloniale et en même temps, elle s'intéresse quand même à la condition des femmes algériennes et elle souhaite aussi une amélioration de cette condition. Donc elle va enquêter, écrire sur ces femmes algériennes. Donc voilà, il y a vraiment une ambiguïté, ce qui fait qu'on n'est pas dans quelque chose qui est tout noir ou tout blanc, on est dans une zone grise de ces féministes qui évidemment sont inscrites dans leur époque, mais en même temps, voilà, pose une question qui n'est pas posée par les autres, en particulier les hommes, qui est celle de s'intéresser au sort des femmes colonisées.
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM. Vous écoutez toujours l'émission « Ne nous libérez pas, on s'en charge », entretien des oreilles loin du front avec l'historienne Bibia Pavard, qui vient de publier un livre intitulé donc « Ne nous libérez pas, on s'en charge », et une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Vous êtes sur CKUT 90.3 FM et vous écoutez une émission des Oreilles loin du front de Fréquence Paris Pluriel. Vous pouvez retrouver l'émission Les Oreilles loin du front à www.loldf.org.
Et là, on avance un peu dans le temps. Il y a la Belle Époque aussi, où il y a quand même beaucoup de journaux féminins, de journaux féministes. Il y a beaucoup de personnalités qui se revendiquent féministes. En plus, ça finit par la guerre 14-18, où en 14-18, les femmes se sont mises au travail. Est-ce que ce mouvement-là a changé, les revendications ont pu aboutir à ce moment-là?
Alors, la Belle Époque, c'est vraiment l'apogée de ces mobilisations autour du suffrage des femmes en France, mais pas seulement. Il y a des formes de circulation transnationale, d'organisation internationale. Et donc, on a l'impression que ces revendications du droit de vote sont sur le point d'aboutir en 1914. Il y a une grande manifestation qui est organisée en 1914 par diverses féministes pour aller rendre hommage à Condorcet, lui apporter un bouquet. C'est assez important. Et puis finalement, la guerre de 14-18, c'est paradoxal comme moment parce que alors les femmes ne se sont pas mises au travail parce qu'elles travaillaient déjà, mais disons qu'elles ont été poussées à s'engager dans différentes branches pour lesquelles elles étaient minoritaires, hein, par exemple l'industrie lourde, participer à l'effort de guerre par leur travail, elles sont mobilisées en tant que telles, et donc les féministes vont participer à cette union sacrée, mettre entre parenthèses leurs revendications et par exemple réactiver leurs journaux pour soutenir l'effort de guerre contre l'Allemagne. Mais en même temps, bon voilà, ça va pas durer pendant toute la guerre parce qu'il y a certaines vont aussi être pacifistes et le revendiquer et être condamnées pour cela. Mais disons que ce qui va se passer, c'est que contrairement à d'autres européennes en 1918, qui obtiennent le droit de vote, au sortir de la guerre, en particulier les Allemandes, mais aussi progressivement les Anglaises par étapes, eh bien, les Françaises se retrouvent dans une situation dans l'entre-deux-guerres où, de nouveau, elles doivent revendiquer ce droit de vote, et de façon très dure, hein, parce que l'opposition est très forte, et si en fait la réforme passe à l'Assemblée, elle est bloquée par l'autre chambre, et donc du coup ces années d'entre-deux-guerres sont un moment de remobilisation, hein, qui voit parfois un certain désespoir, hein, des féministes qui sont actives depuis des années et qui se disent que ça ne va jamais aboutir.
Et par exemple, le Front populaire, ils ont tenu des positions féministes, ou ça a pas du tout, y a pas eu du tout d'influence, hein.
Ben justement, le Front populaire, c'est un très bon exemple, parce que à la fois, ben, y a une très forte implication des femmes dans ce mouvement. Alors, à la fois, d'un point de vue politique, c'est la première fois que trois femmes entrent au gouvernement, donc c'est quand même un événement que ce Front populaire, hein, et notamment une féministe, hein, qui Cécile Brunjvic, hein, qui est engagée depuis des années. Donc voilà, on voit les choses progresser, mais ce Front populaire ne permet pas de faire aboutir, encore une fois, cette revendication du droit de vote. Donc c'est paradoxal, malgré cette implication voilà, des femmes aussi dans les grèves en 36, il y a de nouveau un rendez-vous manqué à ce moment-là.
Ce soir, aux Oreilles Loin du Front, on propose un entretien avec l'historienne Bibia Pavard à l'occasion de son livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge », une histoire des féminismes de 1789 à nos jours. Alors avant, on parlait de la situation pendant l'entre-deux-guerres, et là, on arrive en 1944, où le 21 avril 1944, le droit de vote est accordé aux femmes.
Et donc là, ce qu'on a voulu montrer, c'est que paradoxalement, on parle du fait que le général de Gaulle a donné le droit de vote aux femmes en 1944. Bon, déjà, on a voulu montrer que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que en fait, les débats se sont tenus dans l'Assemblée à Alger, et que le texte venait plutôt des communistes, et donc c'était pas une ordonnance de Gaulle au départ, hein, c'est que ça venait de ce Parlement. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que voilà, en 1944, on a des décennies de mobilisation autour de cette question qui enfin aboutissent. Mais voilà, c'est vraiment ces luttes qui ont permis de voir ce combat aboutir. Et puis d'autre part, ce qu'on a voulu montrer, c'est que en fait, ce ne sont pas toutes les femmes qui obtiennent le droit de vote en 1944, qu'il y a des décalages dans les colonies, justement, avec des situations voilà, à chaque fois très particulières. Donc c'est une date assez ambiguë que cette date du 21 avril 1944.
Et par ailleurs, après-guerre, il y a aussi tout un mouvement avec Simone de Beauvoir, les idées du féminisme avec le deuxième sexe, qui se propage un peu, alors je ne sais pas du tout si c'est partout, mais qui lit ces livres et qui a accès à ces idées à cette époque-là?
Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est justement ces années 40-50 sont un moment de transition entre ces anciennes organisations féministes qui étaient actives depuis des décennies. Alors bon, elles ont quand même été très atteintes par la Seconde Guerre mondiale et par la répression qui a été celle du régime de Vichy et de l'occupant nazi. Donc ça a été quand même une période très noire, hein, pour les mobilisations féministes. Donc certaines organisations perdurent, mais elles sont un peu vieillissantes, elles perdent leur revendication principale du droit de vote, mais bon, elles continuent à perdurer. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a de nouvelles voix qui s'expriment pour revendiquer une autre forme de féminisme, mais sans utiliser le mot, hein. C'est le cas de Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, hein, qui ne se dit pas féministe, mais qui en même temps a un discours évidemment totalement nouveau et important sur cette question de la place et de l'égalité, la place des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, son livre en 1949 est un best-seller. Hein, il a le succès du scandale aussi, parce qu'il est reçu de façon voilà, très réactive par toute une partie de l'intelligentsia française, dans le contexte bon, de la guerre froide et de, bon, tout simplement de, aussi des positionnements de Simone de Beauvoir dans le monde intellectuel. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il lit. Effectivement, c'est une bande de pouvoir, c'est plutôt voilà, une élite intellectuelle, mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que ces idées, elles vont se diffuser aussi par d'autres moyens, elles vont être reprises par des journalistes dans la presse féminine, elles vont aussi être reprises, par exemple, par l'association La Maternité Heureuse, créée en 1956, qui devient le mouvement français pour le planning familial. Simone de Beauvoir a un positionnement très clair sur la nécessité pour les femmes de maîtriser la procréation par la contraception, et elle a un discours très, voilà, très vif contre l'hypocrisie autour de l'avortement. Donc voilà, elle place le corps et la sexualité au cœur de ses réflexions. Donc ces idées-là, quand même, elles se diffusent aussi progressivement par des médias féminins qui vont reprendre à leur compte un certain nombre d'idées, ce qui fait que on a des formes de circulation qui ne sont pas seulement propres à une élite au sens strict. D'ailleurs, ce qui est une source passionnante, c'est celle des lettres envoyées à Simone de Beauvoir, qui sont étudiées actuellement dans une thèse, et qui montrent, de Marine Rouge, qui montrent en fait que voilà, elle a aussi suscité un certain nombre de vocations, de réactions. Des femmes lui écrivent pour lui dire que ce livre, ça a été extrêmement marquant dans leur vie. Donc on a quand même un impact sur le long terme. Très important de cet ouvrage de Simone de Beauvoir en France, mais pas seulement, puisque c'est un ouvrage extrêmement traduit, qui circule, qui revient aussi en France par d'autres voies. Donc voilà, au cœur de ces circulations qui ont été très importantes depuis les débuts des mouvements féministes.
Et par exemple, en 68, les féministes ont été quelque peu, enfin, les femmes, les revendications des femmes ne sont pas apparues sur la scène publique. Ça a attendu 1 ou 2 ans après, en fait.
Voilà, ce qui est intéressant, c'est que on voit bien comment il y a un renouveau des revendications autour de la question du travail, autour de la question de la contraception, autour de la question voilà, tout simplement aussi de l'égalité dans les salaires, dans les conditions de travail, etc., dans le droit civil aussi, ces revendications reviennent. Hein. Donc dans les années 50-60, on a ce renouveau. Dans les années 60, on a plein de nouveaux groupes qui se créent. On a voilà, des émissions de télévision, de radio qui vont suivre les femmes. Voilà, par exemple, l'émission de Ménie Grégoire qui est créée en 1967 et qui donne la parole aux femmes sur leurs problèmes quotidiens et qui, par l'accumulation de ces problèmes, montre aussi qu'il y a voilà, un problème structurel autour de la place des femmes et de la condition qui leur est faite. Hein. On parle de conditions féminines à ce moment-là. Bon, voilà, il y a aussi une émission de télévision, les femmes aussi. Donc voilà, beaucoup de choses bougent. Et puis voilà, on arrive à mai-juin 68. Et là, on se rend compte que les femmes sont omniprésentes. Elles sont en grève partout, dans tous les secteurs. Elles sont au cœur du mouvement étudiant. Elles sont partout, mais elles ne sont pas sur le devant de la scène. C'est-à-dire qu'aucun leader de 68 n'est une femme. Aucun voilà, syndicaliste, aucun étudiant de premier plan ou voilà, ce lycéen n'est une femme hein, à ce moment-là. Et puis, aucune femme à la négociation de la table à Grenelle. Hein. Donc, tout ça donne l'impression qu'elles ont été totalement effacées. En tout cas, elles sont restées dans un rôle subalterne. Et par ailleurs, Il y a quelques brèches d'expression sur la question de la place des femmes dans la Révolution, sur la question, voilà, encore une fois, de l'égalité, mais ces revendications, elles sont totalement marginalisées, ce qui fait que on a de nouveau l'impression que dans ce moment particulier de bouleversement total, à la fois ben, on a cette très forte implication des femmes qui va faire qu'elles vont, pour beaucoup d'entre elles, ben, percevoir cet événement comme un tournant dans leur vie. Et en même temps, elles n'ont pas eu d'espace pour exprimer leurs revendications, leurs idées. Elles ont été totalement marginalisées. C'est tout ce paradoxe qui explique sans doute, en plus ben, du renouveau des mobilisations féministes partout en Europe et aux États-Unis, l'émergence d'un mouvement de libération des femmes dans la foulée au début des années 1970.
Qui a été très puissant jusqu'aux lois Veil. Il y avait quand même un mouvement qui était quand même, c'était populaire.
Alors, c'est ce qui est intéressant avec le mouvement qui émerge donc dans l'après-68, c'est qu'il est porté par... voilà ce qu'on appelle le mouvement de libération des femmes, qui en réalité n'est pas un mouvement au sens d'organisation avec des cartes d'adhérentes, voilà, et une structure très très justement marquée. Au contraire, voilà, c'est des rassemblements, des groupes à Paris, mais aussi partout en France, qui vont vraiment porter ce renouveau du féminisme en le redéfinissant, en lançant de nouvelles revendications, l'avortement libre et gratuit, la contraception, l'accès à la contraception, la libre disposition de leur corps par les femmes, la question du plaisir féminin par exemple, la question des tâches ménagères, du travail domestique et l'articulation entre travail domestique et travail salarié. La question des conditions de travail des femmes, des inégalités des salaires, enfin, disons que les revendications sont très larges et elles ont vraiment la radicalité de ces années 68. Donc le projet, il est révolutionnaire, il s'agit de faire advenir une autre société. Le cadre théorique, c'est vraiment un cadre marxiste aussi. Donc ça se diffuse de manière très large par les médias, par des actions spectaculaires qui sont aussi reprises par la publication d'ouvrages. Bon, c'est vraiment multiforme. Mais ce qui est intéressant dans ces mobilisations des années 70, c'est que très rapidement, ça va dépasser le MLF pour devenir quelque chose qui va s'exprimer par exemple à l'intérieur des organisations, dans les syndicats. On va voir apparaître des groupes femmes dans les syndicats, des groupes femmes dans les partis politiques qui vont se radicaliser et revendiquer à la fois des droits pour les femmes dans la société, mais aussi à l'intérieur de leur organisation. Il va y avoir des groupes femmes dans les lycées, dans les entreprises, et donc qui reprennent ce modèle de groupes femmes non mixtes, qui est propre au MLF, pour pouvoir... porter un certain nombre de revendications, bouleverser en fait l'ordre établi. Et donc on voit aussi des formes très intéressantes de circulation par les médias, par le cinéma, par les arts plastiques, la chanson. Donc on a vraiment une circulation en rhizome qui dépasse le MLF et qui va même avoir un impact sur l'État, puisque il va y avoir la création d'un secrétariat d'État à la condition féminine en 1974 sous Giscard. Bon, alors avec toute l'ambiguïté de ce secrétariat qui est confié à François Giroud, qui ne se dit pas féministe, mais qui porte quand même un certain nombre de transformations, notamment du droit pour prôner plus d'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis il y a cette fameuse loi Veil qui évidemment est une réponse politique à ces mobilisations très extrêmement fortes autour de la question de l'avortement, qui n'est pas une loi qui satisfait les féministes sur le moment. Simone Veil est loin de se dire féministe lors de ces débats, néanmoins, qui va poser un jalon important, en particulier sur l'idée que ce sont les femmes qui décident ou non d'avorter. puisqu'il y a eu des débats auparavant sur est-ce que ça va être les femmes ou est-ce que ça va être une commission qui va décider qui va pouvoir avorter, etc. Donc c'est la femme qui décide en situation de détresse, mais voilà, elle avance cette idée-là, et en se faisant la porte-parole des femmes à l'Assemblée, dans une Assemblée très masculine, elle va aussi pouvoir retirer ce bénéfice de ces mobilisations en étant voilà, une femme qui défend les femmes. Même si voilà, cette loi, elle est loin d'être féministe sur le moment, elle est importante parce qu'elle vient finalement reconnaître cette lutte des femmes qui s'est déployée depuis 1970 autour de cette question.
Après, on a eu l'impression dans les années 80-90 que ça s'était calmé, les luttes, en tout cas que c'était moins, on les voyait moins dans les médias ou dans la rue. Et là, ces dernières années, il y a eu un retour complet, en particulier avec MeToo, mais pas que, hein, puisque l'affaire des SK, on a eu les mêmes discours qui étaient réapparus, en fait. De revoir ces femmes dans la rue, là, votre ouvrage se termine le 8 mars dernier. Mmh. Bah, le 8 mars dernier, la manif était quand même assez géniale. On voyait tout le monde dans la rue, quoi.
Voilà, alors ce qui nous a intéressé, c'est de montrer bah, les formes de continuité depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, parce que bon, les mobilisations elles se poursuivent, notamment autour des questions des violences faites aux femmes dans le cadre conjugal, aussi de la question du viol dans la seconde moitié des années 70. Ensuite, il y a vraiment une institutionnalisation du féminisme qui passe par exemple par le ministère des Droits de la Femme d'Yvette Roudy sous Mitterrand, qui va voilà, poser un certain nombre de jalons sur l'égalité professionnelle par exemple, et aussi sur le remboursement de l'IVG en 82. Bon. Et donc on a des formes de continuité, même si effectivement le mouvement semble un petit peu reflué. Ce que l'on voit aussi, c'est quand même que dans les années 90, déjà, voilà, il y a des nouveaux groupes plus jeunes qui émergent avec la volonté de faire attention, de préserver ces droits qui ont été acquis. C'est vrai pour l'IVG en particulier, vu les mobilisations anti-IVG qui sont très fortes dans les années 90. Et puis voilà, il y a des nouveaux groupes dans les années 2000, dans les années 2010. Donc tout ça prépare à MeToo. Nous, notre idée, c'était de montrer que MeToo, c'était à la fois un événement, mais qui s'inscrivait dans cette histoire longue de lutte contre les violences, une lutte qui s'est faite dans les organisations militantes, mais aussi au sein d'un féminisme institutionnel. Et puis, montrer voilà, cet effet de renouveau qui sont apportés par de nouvelles générations, par les réseaux sociaux, et puis aboutir effectivement à ce 8 mars, qui est un moment très fort de mobilisation en ligne et hors ligne, où on a le retour des grandes manifestations, effectivement, où on a des centaines de milliers de personnes dans la rue, des femmes, des hommes, beaucoup de jeunes. Et donc, effectivement, on a le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans un moment particulier de ces mobilisations féministes, moment particulier qui nous a aussi portés lorsqu'on écrivait ce livre, parce que on avait l'impression qu'on était en train de vivre quelque chose de très, un moment très spécifique qu'il fallait essayer de comprendre dans une histoire plus longue pour essayer de justement le qualifier par rapport à ce qui était arrivé dans le passé et ce qu'il laisse envisager de l'avenir.
Alors, ce livre est sorti il y a juste quelques mois ou quelques semaines, je crois que c'était
en août.
Ouais. Est-ce que tu as eu des retours de militants, de militantes? Est-ce que tu as pu le présenter? Je sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué tout ça, mais...
Ouais, non, justement, on a eu une chance inouïe parce qu'en sortant fin août, on a pu bénéficier voilà, des quelques mois de liberté. Bon, contrôlé évidemment, mais donc on l'a présenté beaucoup dans des librairies, dans des festivals. Et ce qui nous a vraiment frappé, c'est le caractère très positif de la réception. On s'est dit que voilà, 10 ans avant, on n'aurait jamais été reçu de cette façon. Donc voilà, encore une fois, on est dans un moment particulier. On a été aussi frappé par la jeunesse du public qui venait assister à ces réunions, à ces présentations, et puis à cette envie d'histoire très forte qui caractérise aussi en fait toutes les grandes mobilisations féministes, hein, cette envie de connaître une histoire qui est méconnue finalement et de la faire vivre aussi dans les mobilisations actuelles.
Et cet ouvrage, juste pour le rappeler, est particulièrement facile à lire et particulièrement didactique. Et là, franchement, vous avez fait un travail excellent sur ce sujet.
Ouais, c'est très gentil, merci beaucoup. On a vraiment essayé d'être à la fois très solide et en même temps voilà, d'avoir une écriture accessible à toutes et à tous. Même si c'est quand même un gros livre, moi je conseille d'y entrer par petits bouts et par ses périodes de prédilection, plutôt que d'essayer de lire de bout en bout, parce que c'est quand même un gros morceau.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel avec les oreilles loin du front, et ce soir on écoutait un entretien avec l'historienne Bibia Bavard, que nous avons reçue à l'occasion de la sortie de son livre « Ne nous libérez pas, on s'en charge », livre publié aux éditions La Découverte. Nous l'avions déjà reçu sur cette même onde sur Fréquence Paris Pluriel pour parler de l'histoire du planning familial et pour parler de l'histoire des lois Veil. Vous pouvez aller faire un tour sur notre site internet www.loldf pour écouter ses archives.
Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca. Je vais maintenant vous lire deux communiqués sortis de contrepoint.media, contrepoint pluriel avec ES donc. Média. Tel que vu sur contrepoint.media, contrepoint-pluriel.media, nouveau blocage ferroviaire au Nitassinan, communiqué du collectif des premiers peuples défenseurs des terres ancestrales. Des défenseurs de la terre du peuple Innu ainsi que leurs alliés ont bloqué une voie ferroviaire près des bureaux de GNL Québec à soi-disant Saguenay. Le message est clair, que le gouvernement provincial et fédéral ainsi que les conseils de bande coloniaux se doivent d'arrêter immédiatement le projet de gazoduc et GNL. La mise de l'avant de ce projet pourrait engendrer une crise sans précédent. Rappelons la crise ferroviaire de février dernier où nos sœurs et confrères des premiers peuples se sont mobilisés à la grandeur du pays avec les Wet'suwet'en contre un projet de gazoduc. La rivière Saguenay est au cœur de nos terres ancestrales et comme peuple souverain, nous exigeons son respect et sa protection intégrale pour les générations à venir. Ainsi s'appliquent nos ordres juridiques anciens émanant d'Assis, terre, elles-mêmes qui sont aussi une expression du juste gens international, de notre dignité et de l'exercice de notre droit à disposer nous-mêmes comme Innu. Vous êtes sur des terres non cédées que nous occupons depuis des millénaires. Apprenez à écouter les premiers peuples et à respecter la terre-mère Chikaounou Assi. Nous sommes solidaires avec les luttes actuelles Mi'kmaq, Wet'suwet'en et Haudenosaunee à 1492 Land Back Lane, Tiniwas Warriors, Swepwekmek, Stop Trans Mountain Pipeline, Anishinaabe Moose Moratorium, Justice for Joyce, OCTAC, Kanisetake, ainsi que tous nos alliés Mobilisation Matawini, Ekoni Hachi, Collectif Emma Goldman, Alliance Mamou, Ni Québec, Ni Canada, Projet Anticolonial, les étudiants et étudiantes et groupes écologistes. Jamais il n'y a eu autant de mobilisation contre un projet dans l'histoire. Le propre peuple Innu est présent sur le grand Chichassinou depuis des temps immémoriaux. Nous perpétuons une relation sacrée avec le Nitassinan. Jamais le Nitassinan n'a été cédé en tant qu'Inuit. Nous avons la responsabilité de protéger cette terre pour la génération future. Nous sommes toujours autodéterminés sur le territoire, bien avant les couronnes britanniques, françaises et les structures coloniales canadiennes, émanant de la couronne britannique telle que les conseils de bande, dont la juridiction a été volontairement restreinte à la réserve, laissant aux chasseurs, aînés et citoyens Innu d'exercer cette obligation fondamentale de respecter l'eau. Nous n'avons jamais abandonné notre Innu Tapendamun, souveraineté ancestrale, et nous continuons de pratiquer nos us et coutumes sur le Nitassinan malgré toutes les tentatives de nous exterminer depuis 1492. Nous sommes un peuple intégral avec ce projet de loi et distinct par notre culture ancienne et nos récits, notre langue, notre territoire, nos traditions politiques et notre spiritualité. Assez, c'est assez la destruction de notre environnement que nos ancêtres nous ont légué, lance Benoît, membre du collectif des premiers peuples défenseurs des terres ancestrales. C'est notre responsabilité en tant qu'Innu de protéger la terre pour les prochaines générations sexuelles Kwekwetsiou, membres du même collectif. Le deuxième s'intitule « Blocage des travaux au terrain vague à Hochelaga-Maisonneuve, compte rendu et entrevue ». Les travaux ont été annulés pour la journée, le blocage est terminé selon nos informations. Près de 800 personnes se sont rassemblées le 5 novembre 2020 en avant-midi au terrain vague, entre guillemets, qui délimite l'est du quartier Hochelaga-Maisonneuve, près des voies ferrées à l'intersection des rues Notre-Dame et Dixon, pénétrant dans une zone où avaient lieu des travaux de voirie, sans égard à la promesse du ministre des Transports du Québec de cesser les activités de construction dans la zone, les manifestants et les manifestantes ont cadenassé des clôtures autour du périmètre, empêchant ainsi la poursuite des travaux. Respectant la distanciation sociale et le port du masque, les protestataires ont fait régner une ambiance festive sur les lieux avec musique et chocolat chaud. Ils et elles demandent l'arrêt complet des travaux sur toute la zone, autant du côté du boisé Steinberg que dans la portion sud du terrain vague. Dans le terrain vague, on retrouve le seul terrain boisé de l'est de Schlagau-Maisonneuve, un havre de paix tant pour ses habitants et habitantes et ses voisins et voisines que pour les oiseaux migrateurs et faisant escale. Au cours des derniers mois, nombreuses mobilisations de groupes citoyens ont créé des remous, leur voix s'élevant contre le projet d'y construire une bretelle d'autoroute, obligeant le ministère à promettre un nouveau tracé qui éviterait le boisé Steinberg, situé au nord de la rue de Rouen. Cette bretelle était un des éléments du projet de loi 66, annoncé le 23 septembre dernier par le gouvernement, visant la relance de l'économie québécoise par l'accélération de projets d'infrastructure. Ceci n'est qu'un extrait de ce super communiqué. Vous pouvez lire la suite sur contrepoint.pluriel.media, contrepoint avec un S.media. C'est tout pour aujourd'hui à En profondeur, lundi 9 novembre 2020. Vous êtes toujours sur CKUT 90.3 FM, CKUT.ca.
Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec.
Need your help. You're there. When your kids say something's wrong, you're there. When your friends have a rough day, you're there. Be there for yourself the way you're there for others, as it's normal for these uncertain times to bring out negative emotions or anxiety. If you're finding it difficult to carry out daily tasks, there are solutions. Visit quebec.ca/gettingbetter or call Info Social 811. A message from the gouvernement du Québec.
Airing first on Asheville FM, this is The Final Straw, a weekly anarchist, anti-authoritarian radio show broadcasting from occupied Soligi land in southern Appalachia. We bring you voices and perspectives from people, projects, and struggles around the world engaging in the long project toward liberation. You can email us with questions or suggestions at thefinalstrawradio@riseup.net or at protonmail.com, or send us letters at P.O. Box 6004, Asheville, North Carolina 28816. This show is brought to you by Firestorm Books and Coffee. Located at 610 Haywood Road, Firestorm is a locally owned co-op specializing in offbeat, underground, and independent literature. You can find a sample of Firestorm's books and zines, plus a full calendar of events at their website, firestorm.coop.
This week, we are pleased to present a guest interview with author Christian Williams about his new book, Resist Everything Except Temptation: The Anarchist Philosophy of Oscar Wilde, which was released in June 2020 from AK Press. I found this interview extremely illuminating, perhaps like